Frankenstein remixé version porcine pour une étude sur la mort cérébrale qui fait beaucoup parler. C'est notre une de la science aujourd'hui, Axel Villard.
Oui, Daniel, et l'étude en question, plutôt intrigante, fait la couverture de la revue Nature. Voici le topo. Des chercheurs de l'université de Yale ont récupéré 32 cerveaux de cochons abattus normalement pour leur viande. Ils ont branché ces cerveaux sur une machine nommée BrainX qui fait circuler dedans un cocktail oxygéné à 37 degrés, enrichi en substances protectrices. Et après 6 heures de perfusion, il mesure une réduction de la mort des cellules, la restauration de certaines fonctions et notamment une activité synaptique pendant 6 heures. Alors pour en parler et pour comprendre ces travaux, nous sommes en studio avec vous, Karim Benchenan. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes neuroscientifique et chercheur pour le CNRS à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris. Alors, depuis la publication de ces travaux, on a lu beaucoup de petites formules dans la presse. On a pu lire « rallumer »,« réveiller »,« réanimer »,« relancer le cerveau de cochon mort ». C'est quoi le bon terme ?
On a même entendu « zombie ».
Oui. Les cochons zombies, hein,
ouais, ça. C'est... Il n'y a pas de bon terme. Le terme, c'est scientifique, c'est on peut restaurer certaines fonctions très particulières oui. après 8 heures post-mortem.
Mais il est dans quel état ce cerveau branché sur cette machine ?
Il n'est pas super en point. Tout leur argument, c'est de dire il marche mieux qu'un cerveau auquel on ne fait rien.
Oui.
Donc c'est déjà relativement important. La question, c'est quel type d'activité cérébrale on maintient. Donc il montre qu'on maintient une activité de la circulation cérébrale.
Oui.
Partiellement, parce que par exemple, deux fonctions qui sont très importantes pour l'activité cérébrale au niveau vasculaire, c'est la préservation de la barrière hématoencéphalique et l'autorégulation, qui n'est pas adressée ici. Donc on sait quand même que la partie vasculaire dans les organes hors du corps, c'est ce que se conserve le plus longtemps. Il montre également quelques maintenances de l'activité du système immunitaire, avec quelques limites sur les contrôles. Et enfin, il regarde l'activité neuronale. Donc, il montre qu'il n'y a pas d'activité cérébrale globale au niveau EEG, qui est utilisé pour définir cliniquement la mort des...
Donc, EEG, ce sont les signaux électriques?
Voilà, c'est l'activité quand on pose des électrodes sur le scalp. Mmh. Donc, c'est ce qui est utilisé pour définir
Et là, ces cerveaux que l'on a un peu réanimés n'ont pas d'activité électrique ou
voilà.
Une activité électrique?
Non, il n'y en a pas. Par contre, il y a quelques neurones qui, localement, préservent une activité fonctionnelle. Mais ça, il le montre uniquement en refaisant des tranches de ce cerveau et en regardant ex vivo après sur les méthodes très classiques.
Il y a quand même quelque chose, Karim Benchenan, qui est intriguant dans le protocole. Juste dans le protocole, ouais. C'est que ces chercheurs disent avoir gardé sous la main un anesthésiant au cas où le cerveau montrerait des signes de conscience. Alors déjà, pourquoi et est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils s'attendaient à quelque chose comme ça?
En fait, je pense que la vraie question sous-jacente, c'est des questions éthiques. Notamment, par exemple, est-ce qu'un cerveau isolé de cette façon ressent la douleur?
Oui.
C'est parce que on est soumis à des règles éthiques. Donc là, il travaille dans un cadre qui est particulier, puisqu'à partir du moment où c'est un animal qui a été tué pour raison pour sa viande, on est en dehors des règles éthiques, puisque on n'a pas tué un animal pour faire de l'expérimentation, sous réserve que on n'induit pas quel est l'état de conscience de ces cerveaux, et est-ce qu'on n'induit pas un état de douleur générale. Donc ça, c'est des questions qui se posent sur cet article, mais c'est là où, en fait, en regardant les littératures depuis plus longtemps, des préparations en cerveau isolé, ça existe depuis les années 70. Ça a été fait déjà, notamment par Robert White, un neurochirurgien de Cleveland qui est très connu pour ça. Et ça a été très utilisé, notamment pour essayer de faire un lien entre l'in vitro, on a beaucoup d'outils, et l'in vivo, parce que travailler sur des cellules isolées, c'est pas la même chose que travailler sur le cerveau. Et c'est là qui est un tout petit peu surprenant, parce que ces études-là ont montré qu'ils arrivaient à faire des préparations en gardant l'activité électrique pendant des durées plus longues. La seule différence, c'est qu'ils récupéraient le cerveau beaucoup plus tôt après...
La 4 heures.
Là, dans cette étude-là, ils attendent 4 heures.
Donc c'est la seule vraie nouveauté, c'est le laps de temps entre le moment où le cerveau est mort et le moment où on tente de d'en réactiver certaines
fonctions. Voilà, donc il y a plusieurs points qui avaient été faits séparément. Déjà de perfuser avec quelque chose qui ne coagule pas, par exemple, où il n'y a pas de cellules, c'est déjà une prouesse, mais ça avait déjà été fait chez le cochon d'Inde. Donc il y avait plein de petites parties, et notamment dans les années 60, 70 ou 80, où on avait vraiment les chirurgiens et la physiologie, c'était l'âge d'or de la physiologie, avaient des compétences quasiment qu'on a du mal à retrouver à l'heure actuelle. Donc déjà, il y avait énormément de choses qui ont été faites. Et là, il y a une petite perte dans les années 80-90 avec le tout biologie maker. Et là, on retrouve ce qui est intéressant ici, c'est on arrive à trouver des situations où on peut attendre très 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 longtemps après la mort.
Mais oui. Karim Benchenan, le but quand même de cette manip et de cette machine, c'est quoi à terme? Qu'est-ce qu'on essaie de démontrer et comment s'en servir?
En gros, c'est assez dur de savoir quel est vraiment le but des chercheurs dans l'étude. Ils sont pas très 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 clairs, et c'est la discussion qui se fait autour de ça est assez compliquée. Les plusieurs points, c'est ils montrent que après très longtemps, on peut garder certaines fonctions du cerveau post-mortem. Ils disent, et c'est peut-être le point le plus faible de l'article, que ça peut être utilisé pour soigner l'ischémie cérébrale ou des troubles.
Qu'est-ce que c'est l'ischémie cérébrale?
C'est quand il y a un vaisseau dans le cerveau qui se bouge, donc il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de glucose, ou bien quand on en fait un arrêt cardiaque.
Donc le but, c'est quand même de brancher un jour un cerveau humain, peut-être avec ce genre de dispositif?
Alors, peut-être d'utiliser au moins ces préparations pour trouver des traitements, mais bon, le cocktail qu'ils utilisent, c'est un espèce de cocktail avec plein de molécules qui ont déjà été utilisées et faites en essai clinique et qui ne marchaient pas chez l'homme. Donc on ne sait pas trop. Mais toute la question, c'est ça. C'est est-ce que on peut... j'ai l'impression, est-ce qu'on peut utiliser ces préparations chez l'homme? C'est-à-dire que, en gros, il y a beaucoup d'échecs de la recherche sur les traitements, où certaines personnes disent c'est à cause de l'utilisation du modèle animal. Donc est-ce qu'on pourrait pas utiliser les hommes décédés pour faire des préparations de ce type-là et tester des molécules? Et donc, je pense que c'est pour ça que la discussion éthique se pose à un point tel qui est-ce qu'on peut s'autoriser? Est-ce que ces préparations ressentent la douleur? Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles sont... Après, l'extrapolation outrance, c'est le transhumanisme. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour préparer des futures transplantations de cerveau pour les centenaires de Californie qui veulent se faire congeler dans des frigos? Mais
on vous sent quand même un peu ironique, assez critique sur les finalités de cette expérience et même sur la nouveauté qu'elle représente, puisque beaucoup de ces tests avaient en partie été déjà faits. Pourtant, c'est la couverture de Nature qui est une des revues scientifiques les plus reconnues et les plus prestigieuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont cédé au sensationnalisme chez Nature, que si vous aviez eu à revoir cet article, vous ne l'auriez pas mis en couverture?
C'est-à-dire qu'on n'évalue pas la qualité d'un article au fait qu'il est publié dans Nature. Sinon, on dit que Donald Trump est un super homme politique. Mais le point, c'est quelle est la question? J'ai l'impression que la question qui va dans les médias va beaucoup plus loin que simplement la question posée par l'article. Et si c'est ça, par exemple, il y a un expert en éthique qui disait c'est une révolution et ça change notre façon de penser la relation à l'éthique, la définition de la mort. Ça va très très loin parce qu'on pouvait se poser largement la question avant. Un des points, c'est potentiellement, il y a très probablement un brevet qui va être placé sur ce système. Si ça peut faire un système de l'afflux de capitaux pour peut-être des mauvaises raisons, mais des afflux de capitaux qui font que ce système de perfusion se démocratise et est vendu à large échelle, pour les transplantations, des choses, ça peut être étudié et peut être utilisé.
Merci Karim Benchenam, merci à vous de nous avoir éclairé au-delà de la couverture de Nature sur cette recherche, et Axel, à bientôt.
À bientôt.